that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you.
I feel good sur RCN, Christophe Chevardet.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ma femme voulait absolument que je change de générique, que je change de nom d'émission. J'écoute beaucoup ma femme, mais j'arrive pas à changer parce que c'est un format qui me va bien. C'est 30 minutes à I Feel Good, 30 minutes pour rencontrer un homme ou une femme qui partage l'essence de son engagement, l'essence ou l'essence de son engagement. Le but du jeu, c'est que cet invité partage ses ondes positives. Et puis c'est la rentrée, donc je me suis dit, on va s'intéresser un tout petit peu du côté de l'éducation nationale. Madame, mesdemoiselles, messieurs, elle est passionnée par le dialogue des cultures, elle est passionnée par les savoirs. C'est sa responsabilité au sein de l'éducation nationale. C'est aussi quelque chose qui l'a fait avancer. Madame, mesdemoiselles, messieurs, j'ai le plaisir d'accueillir Sophie Renaudin.
So good, so good, I got you.
Bonjour Sophie.
Bonjour Christophe.
Excuse-moi, j'ai commencé par ma femme, mais parce que je voulais m'excuser auprès d'elle, tu vois, c'est quand même, voilà. Sophie, ton titre exact, alors n'hésite pas à prendre le micro, à bien te mettre devant, hein, c'est voilà. On a un peu préparé, c'est la reprise, hein, on a repris un peu de manière agitée, on va dire. Sophie, tu es déléguée académique à l'action, à l'éducation artistique et à l'action culturelle. Ça consiste en quoi ?
Alors, mon travail consiste en fait à faire en sorte qu'il y ait, avec l'aide du ministère de la Culture, tous les jeunes de 0 à 18 ans qui soient concernés par l'éducation artistique et culturelle. C'est-à-dire qu'ils puissent expérimenter des rencontres, des pratiques avec des œuvres, avec des artistes, avec des structures culturelles et se les approprier pour pouvoir devenir plus tard, eux, à leur tour, passeurs de culture.
Alors moi, ça fait longtemps que j'ai quitté l'éducation nationale, mais ça, on avait des profs de dessin à l'époque, on avait des profs de musique aussi à l'époque. Ça veut dire que le but du jeu, c'est de faire jouer cet orchestre-là dans des nouvelles fonctions, dans un nouveau titre aussi, pour qu'ils puissent jouer ensemble au service des élèves.
Alors l'éducation artistique et culturelle s'appuie effectivement sur les enseignements artistiques, les arts plastiques, l'éducation musicale et le chant choral, qui font partie de l'école, là vous les connaissez tous. Mais elle s'appuie aussi sur tous les autres professeurs qui vont parler de théâtre, de danse. La danse est inscrite, vous le savez, là, avec les Olympiades, dans les programmes des collègues d'enseignement physique et sportif. Et puis, elle s'appuie beaucoup sur la rencontre. C'est-à-dire qu'on n'est pas que dans l'école, on est dans le partage avec les partenaires culturels, avec des artistes, avec des passionnés de culture, avec des scientifiques qui travaillent dans les universités et qui viennent dans les classes ou les classes qui vont à la rencontre de ces passionnés de culture.
Donc, l'idée, c'est qu'on a vraiment évolué sur ces missions-là, à les sortir de ces cadres purement, j'allais dire académiques, mais non, justement, d'enseignement de matière pour les faire transpirer dans l'ensemble de la vie.
Bah, l'idée, c'est qu'on travaille en projet, effectivement, tous ensemble, et puis qu'on apprend à se connaître, à s'acculturer, et puis à œuvrer ensemble les jeunes, les professeurs et les artistes.
Et les partenaires autour, voilà.
Et tous les partenaires, les librairies, les médiathèques, voilà.
Ça date de quand et ça pourrait dater de plus longtemps quand on pense à Malraux, par exemple, qui avait toujours eu cette attention. Voilà. Ça date de quand dans l'éducation nationale ?
Alors tout à fait, ça date effectivement depuis très longtemps l'éducation artistique et culturelle. Je dirais qu'elle prend sa source dans les années 70 à peu près. On est à peu près dans ce mot-là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'en ce moment, on est dans une dynamique vraiment formidable en éducation artistique et culturelle, où on a tous les moyens pour pouvoir mettre en œuvre effectivement enfin cette généralisation, donc faire en sorte que chaque élève y arrive. Et dans le Grand Est, c'est juste formidable, parce qu'on a...
Vous avez compris pourquoi elle participe dans I Feel Good, chers auditeurs, parce que tout est beau.
Mais c'est vrai, j'ai une chance formidable, ouais. Je travaille dans une académie qui est dans une région très engagée, on le sait, on est dans une région où tout le secteur associatif est très fort, même si on a besoin de le soutenir. Donc ça veut dire que, et dans l'école, et dans le hors temps scolaire, on a tout ce qu'il faut pour accompagner nos jeunes. Et en fait, on a des collectivités très engagées. On est dans une académie où on a plus de 20 collectivités à tous les niveaux, tous les échelons, qui sont vraiment en contractualisation pour nous soutenir dans cette éducation artistique et culturelle avec le ministère de la Culture et le ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse. Donc c'est quand même une très très belle manière de fonctionner. Et puis en ce moment, on a donc un outil qui s'appelle Pass Culture, qui nous permet d'avoir un budget pour accompagner dans les offres collectives, donc dans le temps scolaire, les projets. Et les jeunes aussi ont un budget via Pass Culture, je profite pour le rappeler, pour pouvoir écouter, s'acheter des livres, mais aussi aller au concert, à l'opéra, au cinéma. Et donc, dans l'Académie de Nancy-Metz, pour tout ce qui est projet culturel, on a plus de 4 millions de disponibles pour pouvoir mettre en œuvre des projets avec les artistes qui peuvent s'inscrire sur Pass Culture. On a vraiment une très, très belle dynamique. Pour vous dire, l'année dernière, on avait 95% des collèges et lycées de l'Académie qui étaient engagés dans l'éducation artistique et culturelle, et on arrivait à toucher à peu près 70% des élèves.
Alors, il faut aller plus loin.
Il manque toujours. C'est mon travail. Mon travail avec la collectivité.
C'est pas pour pointer du doigt, je dis ça. Oui. Comment on peut passer au travers? Enfin, c'est ça qui veut...
Alors, l'idée, c'est... On ne passe pas au travers de l'enseignement.
Oui.
Tous sont avec des professeurs. L'éducation est nationale, c'est vraiment un secteur public, c'est vraiment un enjeu public. Pas de problème.
C'est question de leur dire un tout petit peu, quand tout le monde vante les mérites fédéralistes allemands, par exemple, il y a quand même des avantages à un modèle national. Quand même.
J'en suis plus que convaincue, et c'est pour ça que je travaille bien l'éducation artistique et culturelle du côté de l'école, parce que, et c'est inscrit dans le code de l'éducation, je l'ai repris pour être sûre de bien dire les choses, le service public de l'éducation contribue à l'égalité des chances et à lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Sauf qu'on ne fait pas ça tout seul. Donc, si on reste que sur les enseignements artistiques, pas de problème, on est à 100%.
C'est bien ça la dimension de ton boulot.
Travail, c'est d'aller en projet. Voilà, c'est d'aller travailler avec les parents, avec la coopération de tous les partenaires. Et c'est là qu'on a encore du travail à faire, parce que derrière ces pourcentages que je vous ai donnés, il y a des jeunes, il y a des élèves. Et ce que l'on veut, nous, c'est toucher en priorité les jeunes qui sont les plus éloignés, en fait, de l'accès à la culture.
Tu me disais, en travaillant tout petit peu avant l'émission, tu as une attache toute particulière pour le rural. Pourquoi ?
Alors, il se trouve que j'ai grandi dans une famille d'agriculteurs, vraiment convaincus. C'est-à-dire que j'ai passé mon enfance à sauter dans les bottes de foin. J'ai aussi la chance de passer beaucoup de vacances dans les Vosges et dans des endroits. Alors là, je vous parlais avant plutôt du nord de la Meurthe-et-Moselle. Maintenant, je vais vous parler des Vosges. Donc, dans des secteurs qui sont parfois, enfin, qu'on connaît mal parce que, alors évidemment, on va parler du côté très positif des Vosges, qui est un très beau département, on a envie d'aller, mais néanmoins, il a une histoire. Et dans cette histoire, il y a un moment donné, que ce soit pour le nord de la Meurthe-et-Moselle, ou pour les Vosges, un passé industriel et vraiment du chômage parce que les usines textiles dans les Vosges s'en vont, parce que dans le nord de la Meurthe-et-Moselle, c'est tout ce qui est lié aux mines en fait, qui part aussi. Et ces questions-là me touchent particulièrement. C'est aussi l'histoire de Bataville, si on est dans la Moselle sud. Enfin voilà, c'est toutes des histoires où, à un moment donné, des personnes qui ont des convictions par rapport à un territoire se retrouvent démunies et se retrouvent à reconstruire une autre histoire par rapport à leur territoire. Voilà, ça, c'est des choses vraiment qui marquent et qui marquent durablement les esprits des parents et donc des jeunes qu'on a à l'école.
Mais là, tu es sur une rencontre où on est plutôt sur une crise économique liée aussi à une situation de ruralité. C'est un peu le mix des deux. C'est dur d'aller là-bas.
Alors comment ça, c'est dur d'aller là-bas ?
Quand on est instit, jeune instit, et c'était ton cas, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, d'être nommé, parce que le principe de l'éducation nationale, c'est qu'on ne te nomme pas là où tu habites, généralement, enfin non, j'exagère, mais on vous met dans des postes plutôt éloignés, où la densité de la population est moins élevée, où il y a moins de demandes d'enseignants. Donc on vous met dans des zones plus en difficulté sociale et culturelle, justement. C'est là que tu as commencé.
Tout à fait. J'ai commencé, en fait, dans une toute petite école, une classe unique. On appelle ça comme ça. C'est-à-dire que pour ceux qui ont vu Être et Avoir, c'est vraiment les élèves depuis la maternelle jusqu'au CM2 dans la même classe.
Oh, les bons souvenirs que tu rappelles.
Voilà. Et j'ai passé plusieurs années comme ça à travailler avec des classes où en fait on a tous les élèves d'âge différent dans la même classe. Moi, je trouve passionnant parce que pour travailler avec ces élèves, il faut absolument fonctionner en projet. On ne peut pas fonctionner, ou alors on décide de morceler notre temps, autant d'élèves qu'il y a de niveau dans la classe.
Année,
mais ça,
ce n'est
pas ma manière de faire. J'aime bien créer du lien, donner envie de faire ensemble. Donc, pour vous raconter une petite anecdote, j'arrive à Lubin, toute
88.
Petite école, voilà, 98 quand même.
Non, département.
Ah oui, le département aussi, oui, pardon. Donc, j'arrive à Lubin, donc toute petite école, effectivement, dans une vallée vosgienne. Je vais faire... Allez, je souris un peu les Vosgiens, je l'espère, mais j'ai failli louper, quand je suis allée la rencontrer la première fois, j'ai loupé la route qui permettait d'aller à Lubin. Toute petite école, effectivement, où les parents avaient quand même effectivement, des difficultés puisqu'il y avait eu fermeture de l'usine textile. Il y avait dans ce village un café qui était tenu par Madame Ruhlmann, je pense que la famille Ruhlmann se reconnaîtra, qui était la mère du maire de Lubin. Et ce café était fermé. Mais Madame Ruhlmann recevait toujours les amis, les habitués, dans l'arrière-cuisine. Et donc, ce que l'on a fait avec les élèves de l'école de Lubin à ce moment-là, toute petite école, ils étaient 15 élèves, on a fait revivre en fait ce café avec les élèves et les parents. Donc, ça veut dire que tous les samedis matins, on faisait une recette de cuisine. Que toute la semaine, on avait travaillé tous les apprentissages qui permettaient de lire et de faire, de peser, enfin tout ce qui permet effectivement d'être autonome par rapport à cette recette de cuisine. Les élèves repartaient avec la recette de cuisine, donc avec les aliments cuisinés. Donc ça, c'était génial parce que je peux vous dire que les parents d'élèves aimaient bien. Mais ensuite, on a vraiment, vraiment accueilli les parents d'élèves comme au restaurant, dans le café de Madame Ruhlmann. Voilà une manière de travailler en projet.
Donc c'est délégué académique à l'action, à l'éducation artistique, à l'action culturelle, à la gastronomie et à l'insertion sociale. Quoi. C'est...
Peut-être que ce qu'il faut imaginer, c'est qu'effectivement, l'éducation artistique et culturelle, c'est indépendant, c'est étroitement lié à la vie citoyenne, à l'idée d'agir sur le territoire. L'école, pour moi, c'est un élément essentiel de cette manière de travailler ensemble.
Alors, je me permets d'être un petit peu provoque, Sophie, mais justement, parce que ça pourrait être un peu le vernis, la tarte à la crème, quoi, la culture dans ce milieu-là. Ouais. L'exemple que tu donnes là, de Lubin est particulièrement intense. Tu en as vraiment beaucoup aussi, quand même, des exemples comme ça, où on franchit les portes d'un entre-soi culturel, on va dire, pour être un peu provoque, toujours, pour aller vraiment à de la médiation, de la rencontre.
Alors, je vais vous en parler un très récent que je trouve magnifique et qui est en train de d'œuvrer dans la Meuse. Donc là, c'est lié à mes fonctions, parce que je vous ai parlé de mes débuts. Mais là, je vais vous parler de ce qui me porte actuellement. Donc, je vais vous parler d'une artiste qui s'appelle Carole Nieder, qui est venue découvrir le nord de la Meuse, Montmédy exactement, la citadelle de Montmédy, lors d'une résidence dans un collège. Il y a, je vais essayer, 3-4 ans, je crois, c'est une résidence qu'on mettait en œuvre avec le ministère de la Culture. Donc ça veut dire qu'elle passe un temps dans le collège et sur le territoire à découvrir tout l'intérêt du territoire. Carole Nieder, elle avait fait ses études à Strasbourg, elle a découvert complètement Montmédy. Elle est tombée amoureuse de Montmédy. Bon, pour vous dire, pour la belle histoire, elle a carrément rencontré son mari à Montmédy. C'est la belle histoire. Voilà. Elle a embarqué dès le début tous les élèves des écoles, collèges et lycées. Alors, pas tous, hein, mais elle a fait des rencontres. C'est magnifique ce qu'elle a fait. Elle nous a fait une restitution, c'est-à-dire elle nous a rendu compte de ce qu'elle a fait. On était tous subjugués. Et 4 ans après, elle met en place un très beau projet. Donc là, je vous parle de l'autre côté. C'est ça qui est intéressant. Qui s'appelle Culture, mais avec les agriculteurs, elle travaille avec une quinzaine, bon, je ne vais peut-être pas tout à fait les bons chiffres, mais entre 10 et 15 agriculteurs du Nord Meusien. Et elle va, pour chaque ferme, en fait, créer un projet particulier avec eux, Elle a 4 ans pour ça, elle est soutenue par le ministère de la Culture et elle va évidemment créer le lien avec les élèves des écoles, des collèges et des lycées pour qu'ils découvrent aussi et redécouvrent autrement le territoire dans lequel ils habitent.
L'enthousiasme de Sophie pour son engagement, pour sa profession, pour sa passion, nous fait complètement sortir des cadres. Pardon Sophie, mais alors on n'a pas fait les 3 dates importantes dans ta vie, on a failli oublier la musique, il est temps de se rattraper.
Tem gente cansada, gente enganada, oh gente. Tem gente malvada, manipulada, oh gente. Tem gente frustrada, gente calada, oh gente. Tem gente feliz, bem feliz. Tem gente amada, gente abusada, oh gente. Tem gente zangada, gente do nada, oh gente. Tem gente mimada, imaculada, oh gente. Tem gente feliz, tão feliz. Humano é rico quando sabe dar. Humano é bicho. Humano é nobre quando sabe amar. Humano é. Tem gente esperando, gente avançando, a gente. Tem gente pulando, gente correndo, a gente. Tem gente nadando, gente voando, a gente. Tem gente feliz, simplesmente feliz. Tem gente gastando, gente curtindo a vida. Oh, gente, tem gente sonhando, conscientizando que é gente. Tem gente negando a felicidade. Oh, gente, se liberta lá. Amor tem sempre hora certa.
Sur RCN, Christophe Chevardet.
Non mais c'est la folie ici, on discute en antenne et puis le responsable technique qui nous dit même pas qu'il faut revenir à l'antenne et nous on arrive. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est Sophie Renaudin, déléguée académique à l'éducation artistique et à la action culturelle de notre académie de Nancy-Metz, donc de Lorraine, qui nous a fait un petit peu un rappel de l'enjeu pendant cette première émission de l'éducation artistique et de l'action culturelle. Et puis, c'était quand même un petit peu sérieux pendant la pause musicale. Tu me disais, pourquoi cet artiste-là? Et puis tu me faisais un rappel du code du soleil, c'est ça, le code du soleil. Je te propose, on va repartir du code du soleil pour aller à ce choix musical et l'explication de ce choix musical. On va le faire dans ce sens-là. Sophie.
D'accord. Donc le code soleil, en fait, c'est un très très vieux code qui a été créé en 1923 par le syndicat national des instituteurs. Alors la dernière édition, c'est 1979. Donc on est quand même... allez, il y a quelques valeurs qui sont un peu obsolètes. Mais néanmoins, il y a des phrases qui sont quand même, je trouve, très fondatrices et qui nous permettent de regarder un peu autrement ce qu'est l'éducation. Et donc j'ai repris quelques extraits. Et je vous les lis. Donc, former un homme, c'est transmettre des connaissances élémentaires, mais lui apprendre à lire, à écrire, à chiffrer. Mais c'est avant tout faire son éducation. Je vais dire leur éducation parce que là, on passe dans l'idée du collectif. Donc, former des hommes, c'est faire leur éducation, c'est élever leurs âmes, les consciences vers un idéal. C'est hausser son idéal jusqu'à l'amour de l'humanité. Voilà ce qu'on transmettait aux instituteurs en 1923. Et c'est des phrases que je lisais avec beaucoup de bonheur lorsque j'étais formatrice pour les professeurs des écoles qui débutaient, et pour les professeurs d'art plastique un peu plus tard dans ma carrière, qui débutaient leur métier. Et c'est un très, très beau métier.
Le passionné de politique que je suis aurait envie de te poser 36 000 questions, mais je vais m'abstenir. En tout cas, savourons ce partage de sources de l'engagement, de ton engagement. Il vient de là.
Oui. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que là, je suis donc déléguée académique à l'action culturelle et j'ai donc une équipe avec qui je travaille, qui sont tous d'abord professeurs. On y a tenu, ils ne sont pas déchargés de leurs élèves. Ils sont d'abord professeurs, d'abord enseignants. Et je retrouve cette conviction dans la quinzaine de professeurs avec qui je travaille en proximité, mais également dans les 300 professeurs avec qui je travaille et j'échange régulièrement. C'est impressionnant. Voilà.
Un autre exemple justement de cette éducation pour élever vers l'amour et d'éduquer et d'éveiller les consciences, c'est aussi ce choix musical que tu nous as proposé.
Oui, alors ce que je vous ai proposé en fait, c'est une proposition de Lucia de Carvalho. Et Lucia de Carvalho, c'est une artiste que j'ai eu plaisir à découvrir via La Souris Verte à Épinal, qui est donc une scène
de musique actuelle.
Voilà, musique actuelle. Et en fait, Lucia Carvalho, elle a un très très beau parcours. Puisqu'elle est angolaise, elle est venue au Portugal, puis elle est venue à 12 ans en Alsace. Elle a renoué avec ses racines et puis dans son parcours de vie, elle a rencontré Édouard Heilbronn qui est alsacien aussi et ensemble, ils ont formé un magnifique groupe. Et pourquoi je voulais partager ? Parce qu'il y a 2 ans, ils sont venus, donc outre le travail qu'ils ont fait avec les élèves à la Souris Verte, ils sont venus rencontrer des élèves de lycée professionnel. Et on les avait réunis pour pouvoir partager effectivement ce qu'ils font eux en culture et leur découverte à la culture. Et donc, ils ont rencontré Lucia de Carvalho et c'était un moment très, très émouvant avec, on va dire 200 lycéens réunis et qui partageaient et qui dansaient tous sur le rythme de Lucia de Carvalho qui transmet une très belle humanité. Bah, je vous invite vraiment à la découvrir.
Il n'y a rien à faire, t'aimes ton métier. Ce métier, il vient de rencontres, il est à l'origine de rencontres. Ce métier, il est à l'origine d'hésitations aussi, de doutes, de questionnements. Je dis ça parce que ton choix musical, je crois que tu en étais à ton 3e proposition de choix musical. C'est rigolo, c'est cette façon de vivre sa vie et son métier aussi, de questionnement, d'interrogation. C'est le fruit de ton travail, ça aussi.
Mais c'est ce que je t'ai dit hein, quand on s'est rencontrés. Je crois que j'ai la chance d'avoir un métier qui est en adéquation avec ma manière de vivre, avec mes convictions. Je sais qu'il y a des tas de choses à améliorer ensemble par rapport à cette école. On relève le défi ensemble, on avance. Mais je crois vraiment à ces enjeux de l'école dans la société.
Allez, tu nous racontes les rencontres, justement, celles de septembre 96.
Voilà, celle de septembre.
Qui a fait basculer, quand même.
Ben voilà, celle de septembre 1996. En fait, je sors de licence de mathématiques. J'ai mis un petit peu de temps pour faire ma licence de mathématiques parce que, déjà, ce n'était pas forcément le domaine où j'étais le plus à l'aise. Mais bon, des fois, il faut relever des défis.
Ça veut dire qu'il y avait quelqu'un qui te poussait un peu pour faire ça.
J'ai des parents formidables et je les comprends, se sont demandé un petit peu ce que j'allais faire quand j'aurais dit j'aimerais bien plutôt faire les beaux-arts ou architecte ou l'école, mais je ne sais pas trop. Peut-être qu'on va commencer par professeur de maths, d'accord. Enfin, non, il m'avait dit professeur de sciences, mais dans les sciences, j'ai choisi les mathématiques parce que je me suis rendu compte après que c'était un très, très beau vecteur, effectivement, qui est très proche de la philosophie. Enfin, voilà. Donc, je vais dans les mathématiques. En même temps, je fais quand même les beaux-arts en cours du soir parce que ça m'intéresse. Et puis, en même temps, je faisais partie d'une troupe de rock'n'roll acrobatique.
Mais ça, c'était officiel auprès des parents ou pas? Ils étaient au courant de tout ça? Oui.
Alors là, oui, j'ai des parents formidables.
Quand même. D'accord.
Non, mais
d'accord.
J'ai des parents formidables qui m'ont soutenue dans tout ce que je faisais.
Ça, mais il fallait faire des maths.
Mais les sciences, c'était peut-être quelque chose qui rassurait. Et c'est des très bonnes questions sur l'orientation des élèves. Ça ça m'a porté aussi dans des projets. J'ai ouvert avec Florence Robin, quand elle était rectrice, une classe préparatoire art, aux arts et à la culture, qui permet pendant un an d'ajuster le projet post-bac et de voir si on est prêt à le faire.
On en profite pour saluer notre ambassadrice. Là.
Voilà, c'est... tout à fait. Ouais. C'est elle qui m'a recrutée sur la délégation académique à l'action culturelle. Voilà, donc alors je sors de tout ce foisonnement avec quand même, bon, on sent bien que les sciences, c'est quelque chose d'important là, à la vie, et c'est vrai, j'en suis convaincue. Néanmoins, tout ce parcours fait que je rencontre le directeur de l'IFM parce qu'il n'était pas tout à fait sûr de me prendre pour devenir professeur des écoles, donc de me faire rentrer dans cette école de formation, parce que j'avais un petit peu de retard, mine de rien, 5 ans pour avoir une licence de mathématiques.
Elle a un handicap, cette jeune fille.
Voilà. Donc, je vais le voir avec le soutien de ma maman, hein, quand même, qui était là pour me dire, allez, va expliquer ton parcours et tes convictions. Et il me dit, d'accord, si vous rentrez demain à l'IFM d'Épinal. Bonheur pour moi, je vais dans les Vosges, tout va bien. Et là, je rencontre Gilbert Villemain. Et voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a des enseignants qui marquent vraiment et qui vous donnent envie aussi d'aller de l'avant. Eh bien, Gilbert est un homme au parcours formidable, hein, parce qu'il était professeur aux Beaux-Arts, il a été de Marseille, hein, professeur aux Beaux-Arts de Marseille, il a été professeur en collège, en arts plastiques. Il a aussi un passé de militaire convaincu, enfin voilà, enfin, bref. Et il m'a aidé peut-être, alors déjà on s'est rencontrés sur lui, un passeur d'art, moi, une conviction sur l'éducation. On a appris à travailler ensemble, puisque lui, c'était sa première année pour être formateur de professeur, et moi, ma première année pour devenir professeur. Et puis, on a appris aussi, je crois, il m'a appris beaucoup à me rassurer par rapport au fait que l'art, la culture, les sciences, tout ça, il n'y avait pas de raison, ça allait ensemble. Et c'est vraiment ça m'a alignée, en fait, par rapport à tout ce que je voulais faire, et c'est toujours un ami. Et puis, je voulais juste citer aussi Madame Carle, ma professeure, ma maîtresse de maternelle en 1976, qui m'a appris à découvrir la danse et qui m'emmenait, en sortant de l'école, à la MJC où elle donnait des cours de danse. Alors, c'est quand même pas rien, ces professeurs.
Ça marque. Hein, ça continue de marquer. On voit des belles personnes. D'autres belles personnes que tu as rencontrées dans le cadre de ton travail, justement. Pardon, je vais être dur, mais je vais devoir accélérer, Sophie.
2002, Patrice Jacquemin. Alors, je me retrouve dans une réunion à parler de sport davantage que de culture. Et j'aime les deux, il n'y a pas de souci. Mais quand même, à la fin, je dis...
C'était quand même pour parler un peu de culture.
C'était pour ça qu'on m'avait missionné. Donc, voilà. Donc, je dis, peut-être, il faudrait qu'on... Enfin, en tout cas, je suis là. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Et Patrice Jacquemin vient me rencontrer. Patrice, directeur de la Maison des loisirs et de la culture à la Bresse, et qui était élu au développement artistique et au service à la population sur la communauté de communes de la Haute-Moselotte. Ensemble, on a appris à faire ensemble, justement. C'est-à-dire à ne pas compter que sur l'école, qui est une grosse institution et qui compte souvent sur elle-même, mais à travailler avec les parents, avec les animateurs socioculturels, avec des artistes, avec l'appui aussi des collectivités. Et on a construit un des premiers contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle, c'est-à-dire vraiment une conviction avec l'appui du ministère de la Culture, de travailler ensemble sur un territoire et faire en sorte d'aller toucher tous les élèves et tous les jeunes sur l'éducation artistique et culturelle. Et pour la petite histoire, quand même, Patrice Jacquemin était ouvrier et syndicaliste à Bataville. Ah oui. Je l'ai appris plus tard.
Voilà. Tout ça, ça se rejoint, hein, ça s'épouse. Hein. On termine. Tu as décidé de faire la guerre avec tes enfants puisque tu as deux garçons et tu as choisi de donner la date de naissance du deuxième. Voilà, ça voilà. C'est comme ça. Déclaration de guerre, explication, Madame Renaudin, expliquez-vous.
La date de naissance, donc juillet 2004 de Noé, tout simplement parce qu'évidemment, j'aurais pu évidemment aussi citer Elias qui est né en décembre 2000 et on en a reparlé avec Noé ce matin, mais simplement le deuxième, eh bien, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'objet de discussions, d'échanges, d'une complicité entre frères qui fait que l'éducation et tout votre projet d'éducation que vous avez porté en tant que parent vous échappe complètement et ça c'est formidable.
Donc Elias peut vivre grâce à Noé, Noé peut vivre grâce à Elias et c'est ça qui est...
C'est juste formidable.
Magie, voilà. Synergie de la fraternité.
Et comme je fais partie d'une grande famille, je comprends tout à fait cela et ça me porte énormément. Et on vit dans une maison remplie de livres et je voulais aussi dire une petite citation que j'aime beaucoup.
Allez, alors, on va te conclure comme ça, Sophie.
C'est la citation de Georges Didier Huberman qui est un grand, grand homme de l'histoire de l'art. Une bibliothèque est bien plus que la somme de ses propres livres. C'est un dispositif d'engendrement d'idées.
On souhaite une belle rentrée aux jeunes, aux parents, aux enseignants et à tous les partenaires de l'éducation. Merci d'avoir partagé cette foi en l'engagement de l'action culturelle et de l'action éducative aujourd'hui et pour demain et pour longtemps. Merci Sophie.
Merci Christophe.